Frères et sœurs, je vous propose d'entendre ce matin un passage de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Dans cette seconde lettre que l'apôtre écrit aux Corinthiens, nous lirons au chapitre 3, les versets 6 à 17. Voici ce qu'écrit l'apôtre. Le Seigneur nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayons donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était simplement passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, ta parole est vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil bleu, le recueil de chants, louanges et prières, nous allons chanter le cantique 297, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 297 qui nous permettra d'entendre à quel point Dieu est le Dieu des grâces éternelles. Levons-nous pour chanter Dieu. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous avons entendue et conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs pour nous rendre plus obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie, de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Chers frères et sœurs, c'est le 6 juin 1944 que les troupes alliées s'engagèrent dans la bataille dite de Normandie. Et en lisant les lettres qu'un jeune soldat américain écrivit à sa famille avant le désormais fameux D-Day, qui signifie « jour de la décision » et pas « jour J », j'ai eu l'occasion de prendre conscience que pour ces jeunes Américains, et en tous les cas pour celui-ci, qui s'apprêtait à traverser la Manche afin de débarquer sur les côtes françaises, il n'était pas question d'esprit belliqueux. Il n'était pas question d'esprit de revanche, d'esprit de haine, d'esprit d'en découdre avec une idéologie ou un ennemi héréditaire. Outre l'émotion due au déracinement et les paroles forcément rassurantes, peut-être exagérément rassurantes pour la famille restée au pays, ces lettres transpiraient d'un véritable esprit de liberté. Elles étaient animées par un esprit de liberté. L'action de ces lettres était finalement dans l'esprit qui avait déjà animé la génération précédente lorsqu'elle était venue en France en s'écriant « Lafayette, nous voilà !» Il ne s'agissait pas tant de faire la peau de l'ennemi que de libérer une patrie qui, autrefois, avait offert l'indépendance et même une statue de la liberté. Dans une certaine mesure, nous ne sommes pas loin des termes du serment de Koufra, dans lequel Leclerc demande à ses hommes « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Voilà qui évoque la liberté, voilà qui évoque la libération plutôt que l'éradication de l'ennemi. L'horizon est celui de la liberté plutôt que de la guerre à tout prix. Ce goût de la liberté, nous le trouvons justement dans ce passage de l'épître de Paul aux Corinthiens. Ce goût de la liberté est manifestement ce qui anime également l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, il faut le comprendre à travers ce texte, est confronté à des personnes qui, elles, n'étaient pas vraiment animées par ce même esprit de liberté. Vous l'avez entendu, c'est un texte extrêmement polémique dans lequel l'apôtre Paul accable une catégorie de croyants qu'aujourd'hui on déclarerait volontiers littéralistes. Il s'agit de ces croyants qui sont attachés à la lettre, qui ont le plus grand respect qui soit envers le texte fondateur de leur foi, mais qui le vénèrent tellement qu'ils ont perdu de vue que ce texte a quelque chose à dire. Ils sont tellement attachés à la lettre du texte qu'ils ont oublié que ce texte avait un message à délivrer. Ils sont tellement obnubilés par le texte lui-même, dans sa littéralité, qu'ils n'en voient plus la finalité, autrement dit le sens. Et pour expliciter encore un peu plus la pensée de Paul, l'apôtre critique ses croyants qui, certainement, respectent la loi qui est inscrite dans le texte, mais qui n'accomplissent pas la loi, parce qu'ils ne se préoccupent pas de savoir quel est l'esprit de la loi. Or, dans la perspective biblique, l'esprit de la loi, le sens, le but de la loi, c'est la liberté. La loi n'est pas là juste pour faire plaisir. La loi n'est pas là juste pour elle-même. Le but de l'obéissance à la loi, ce n'est pas l'obéissance à la loi, mais la liberté. Si Dieu donne une loi à son peuple, c'est pour que le peuple qu'il vient de libérer reste libre. Il suffit de se rappeler que le décalogue commence par cette phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Pour comprendre que toutes les autres paroles, le décalogue, ne sont pas autre chose qu'un chemin de liberté destiné à faire perdurer cette liberté retrouvée. Loi et évangile, loi et liberté. Voilà un couple assez paradoxal qu'on a souvent du mal à manier. Parce que nous avons tendance, bien entendu, à militer pour l'évangile, militer pour la liberté, et souvent, c'est au détriment de la loi. Que la loi soit nécessaire à la liberté, cela ne va pas de soi. Parce que pour beaucoup, la liberté, la vraie liberté, c'est d'abord et avant tout l'absence de loi, l'absence de limites, l'absence de règles. Au fond, certains ont le goût pour une liberté qui serait l'absence de toute forme de contrainte. Mais quand on prend le soin de lire ce qu'écrit l'apôtre Paul, il ne remet pas en cause la loi de Moïse. Il ne remet pas en cause l'existence de l'Ancien Testament, qui a peut-être une coloration un peu plus légaliste que le Nouveau Testament, mais qui reste quand même le texte qui parle du même Dieu. L'apôtre Paul ne remet pas en cause la loi de Moïse. Ce qu'il remet en cause, c'est l'usage qui en est fait. Cette lecture à courte vue. Et c'est intéressant que Paul utilise l'image du voile. C'est une façon de dire que la loi, des fois, fait écran au projet qu'elle entend soutenir. La loi, parfois, fait écran à cet horizon qu'elle essaie de dessiner. Paul critique une lecture de la Bible qui s'arrêterait au texte, qui s'arrêterait à la lettre du texte. Une lecture qui considère que le texte est la vérité ultime, qu'il n'y a rien d'autre à découvrir derrière. Au fond, Paul critique ceux qui lisent la Bible et se contentent de ce qui est écrit, alors que la Bible a été écrite pour orienter le lecteur vers Dieu et vers son projet pour l'homme. Et la liberté, c'est justement ce qui nous permet d'aller derrière le texte, d'aller au-delà du texte. La liberté, c'est notre capacité à aller au-delà du verset, au-delà de la lettre, pour découvrir que ce texte est en train de construire un univers et que c'est l'univers qu'il construit qui compte. La Bible, c'est un peu comme un viseur. C'est ce qui nous permet de pointer notre existence vers Dieu. Mais voilà, si nous nous arrêtons au texte, si nous nous arrêtons au viseur, alors nous ne valons pas beaucoup mieux que l'idiot à qui quelqu'un désigne la lune du doigt et qui, évidemment, au lieu de regarder la lune, regarde le doigt. La loi, la Bible et même la religion ne sont pas des fins en soi, mais des moyens d'être plus proche de Dieu et de la vie qu'il nous propose. Au fond, la liberté, c'est lorsque nous laissons Dieu nous aider à faire ce petit bout de chemin supplémentaire. C'est lorsque nous le laissons nous mener sur ce chemin qui va au-delà, au-delà de la norme, au-delà de la lettre, au-delà du conventionnel. Nous l'avons entendu dans l'Évangile selon Matthieu, c'est un peu après le texte qui a été lu au moment du baptême de Louise. Certes, nous sommes la lumière du monde, et puis juste après, Jésus parle de la loi, de son rapport à la loi. Et il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. C'est une façon de dire que la règle ne doit pas être supprimée, mais elle doit être dépassée pour être véritablement accomplie. Et c'est là tout le travail de l'esprit que Paul associe à la liberté. Alors après ce passage un peu théorique, je vais prendre des exemples concrets. Prenons le cas d'une équipe de football. Jusque-là, tout le monde suit. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous allez devoir apprendre les règles du football pour les jours qui viennent. Sinon, vous allez être déconnecté des trois quarts de la population mondiale. Seulement, une fois que vous aurez enregistré, intégré ces règles, comme le font les joueurs de football et les arbitres, eh bien, vous découvrirez que le drame de l'existence footballistique, comme le drame de tout sportif, c'est que si on se contente d'appliquer la règle, eh bien, on est encore loin du compte, parce qu'il ne suffit pas d'appliquer la règle pour gagner la partie. Je veux dire par là que pour gagner un match, il ne suffit pas de respecter la règle. Respecter scrupuleusement la règle à la lettre ne suffit pas pour remporter la victoire. Cela signifie qu'il faut vraiment faire mieux que ce que la loi nous propose. Cela signifie qu'il faut vraiment transcender la loi et la dépasser. Et ça, c'est le travail de l'esprit. Alors l'esprit d'équipe n'est pas vraiment l'esprit dont on parle dans le texte biblique. Mais je garde cette analogie. L'esprit d'équipe, par exemple, c'est d'être animé d'un esprit de générosité, d'altruisme, de créativité, d'enthousiasme. Je veux dire qu'il ne suffit pas qu'Anelka ait le ballon dans les pieds pour marquer un but. Il faut quand même qu'il soit soutenu par les ailiers, par les milieux offensifs. Et c'est dans cette intelligence collective, au lieu de juxtaposer les talents individuels, lorsqu'on les conjugue, lorsqu'on fait mieux que ce que la loi et la règle nous proposent, qu'au bout du compte, le résultat est intéressant. C'est vrai pour le football, c'est vrai pour le rugby, c'est vrai pour le tennis. Il ne suffira pas que les finalistes cet après-midi renvoient la balle dans le terrain pour gagner. Encore faudra-t-il faire preuve de doigté, d'ingéniosité, de ténacité, d'endurance et de tout ce que vous pouvez imaginer. On peut prendre un autre exemple. Cela est vrai pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être. Il ne suffit pas de connaître les règles de la langue française. Il ne suffit pas de savoir conjuguer. Il ne suffit pas de connaître la grammaire et le vocabulaire et l'orthographe pour être un bon écrivain. Il y a bien autre chose de nécessaire. Il s'agit d'aller au-delà de la règle. Et c'est tout le sens, me semble-t-il, du ministère de Jésus, qui ne s'est pas contenté d'appliquer la loi à la lettre, mais s'est évertué de retrouver l'esprit de la loi et d'en vivre pleinement. Pour ma part, et j'espère que c'est partagé avec vous, Jésus est une figure de l'homme libre. C'est celui qui n'ignore rien de la règle, qui a bien intégré la loi, qui n'ignore pas qu'il y a des contraintes, des nécessités, mais parce qu'il laisse l'esprit agir en lui, il peut faire mieux que ce que tout un chacun fait lorsqu'il se contente d'appliquer la règle. Au fond, ce qui nous intéresse chez Jésus, ce qui nous fait dire qu'il est véritablement un homme libre, c'est sa capacité à être hors norme, mais par le haut. Être hors norme par le haut et pas par le bas. Parce que ce qui nous fait si mal dans l'attitude de beaucoup de jeunes, par exemple, c'est qu'ils cherchent à être libres, qu'ils veulent être libres, et c'est même une revendication forte, mais qu'ils ne trouvent pas mieux à faire que de défier les lois qu'ils rencontrent, que ce soit les lois de la République ou les lois de la physique. Je veux dire par là que c'est parce que nous comprenons bien que les textes nous parlent d'une véritable liberté lorsque cette liberté se hisse à la hauteur de Dieu, que nous trouvons assez minable finalement une liberté qui ne s'exprimerait que par des dégradations, que par des saccages, que par des agressions, que par la consommation de produits illégaux. Pour être libre, il ne suffit pas de supprimer la loi, parce que de toute façon, si on supprime la loi de la République, il y a d'autres lois qui arrivent par derrière, les lois naturelles, les lois de la physique. Il me semble qu'à la lumière de ce que les textes bibliques nous proposent, et en particulier à la lumière de ce que l'apôtre Paul nous propose, nous avons un modèle alternatif à proposer à celles et ceux qui veulent être libres et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je prends le cas de ces jeunes qui, par exemple, roulent en scooter sans casque. Alors on peut se dire qu'ils le font pour narguer la police, pour s'opposer au code de la route, pour le défier. Mais ce n'est peut-être pas qu'un goût de provocation de la loi des hommes. C'est peut-être aussi un goût de la provocation de la loi de la résistance des matériaux, qui espère peut-être que corps humain contre tôle ou bitume sera dans un rapport différent de ce que la résistance des matériaux nous propose. Eh bien, soit, ils veulent de la provocation, donnons-leur de la provocation, je trouve. Et c'est ça, l'esprit de liberté auquel l'apôtre Paul, à la suite du Christ, nous invite. Ils veulent de la provocation ? Très bien. Mais alors, proposons-leur une autre chose pour exercer leur goût de la provocation. Ils veulent exercer leur désir de liberté ? Très bien. Aidons-les à provoquer. Aidons-les à être libres. mais de façon positive, de manière zélée, en faisant mieux que ce que la loi permet actuellement, en donnant toute la mesure de leurs talents. Ils veulent être hors la loi. Eh bien, très bien, moi ça me va. Mais qu'ils le fassent en étant au-dessus de la loi, qu'ils fassent mieux que ce que la loi préconise. Ils veulent être hors norme, eh bien parfait. Qu'ils soient hors norme lorsqu'il s'agit par exemple d'aider, de rendre service, de créer des lendemains qui chantent. Au fond, cette envie d'enfreindre la loi est assez excellente. Toute la question est de savoir quelle est l'orientation que l'on donne à cette infraction, à cette transgression. Être hors norme lorsqu'il s'agit d'aimer, quoi de plus glorieux ? N'est-ce pas ce que nous disons à tous les jeunes couples et à tous les parents ? Ne pas se contenter de respecter le code civil, mais aller au-delà, créer les conditions d'une vie fantastique, harmonieuse. Ne pas se contenter de faire ce que tout le monde fait, mais de trouver les petites astuces du quotidien pour rendre la vie autrement plus agréable. Le goût de l'excès, parfait, développons-le dans ce qui aide à vivre, dans ce qui aide à soutenir, dans ce qui peut aider le prochain à vivre mieux encore. C'est là la liberté que révèle le Christ en permanence. Toutes ces rencontres sont faites de cela. Ne pas se contenter de ce que la loi propose, mais retrouver l'esprit de la loi pour dépasser la loi. Dans la perspective ouverte par le Christ, la liberté, c'est la possibilité que Dieu nous donne de pouvoir faire mieux que ce que l'on espère, de pouvoir faire mieux que ce qu'on est capable de faire par ses propres forces et par sa seule intelligence. La liberté, c'est de pouvoir aller au-delà de ce que prescrit la loi, qui ne devrait jamais être une fin en soi. Sinon, elle devient cette sorte de voile qui nous empêche de voir l'horizon, l'avenir que Dieu nous prépare. Mais la loi est utile, parce qu'elle nous dit le seuil en deçà duquel il ne faudrait jamais tomber. Elle nous dit quel est le niveau au-dessus duquel nous devons hisser notre vie. Et ce qui est vrai à l'échelle individuelle, pour chaque croyant, pour chaque personne, l'est aussi à l'échelle collective. Un État exerce véritablement sa liberté lorsqu'il fait mieux que ce que la loi prescrit, plutôt que lorsqu'il bafoue les lois internationales, par exemple. Mais on ne peut pas se contenter de ne pas être en dessous de la loi. On ne peut même pas se contenter de respecter la loi. Le fait de se contenter de respecter la loi est insuffisant aux yeux de Paul qui dit que la lettre tue et que c'est l'esprit qui vivifie. Nicolas Berdiaeff expliquera cela à sa manière en soulignant que la liberté n'est pas quelque chose de statique. Que si nous essayons de consigner la liberté dans un texte, dans une loi, dans une définition, alors cela signifie que nous enfermons la liberté dans quelque chose, dans un texte, dans une parole, que nous l'assignons à résidence, que nous la rendons esclave de nos mots et que nous la faisons disparaître finalement. La liberté, dit Berdiaeff, a toujours besoin de l'esprit. Toujours, pour être vivace, pour être encore et toujours cette dynamique de vie à l'œuvre dans le monde, et non un état définitif en forme de tranquillité et de paix. Lorsque nous nous contentons de la lettre, lorsque nous contentons de la loi, lorsque nous nous contentons de la règle commune, alors ce n'est plus de liberté dont il est question. Si nous nous rappelons que l'esprit, dans la langue biblique, signifie le vent, signifie le souffle, alors nous mesurons bien que l'alliance entre l'esprit et la liberté nous dit que la liberté est toujours en mouvement, que c'est forcément quelque chose d'insaisissable, que ça ne peut pas être défini et définitif en un lieu et en un temps. Comme nous ne pouvons capter le vent, comme nous ne pouvons le saisir et l'assigner à résidence, eh bien, l'esprit de même nous traverse et nous pousse, comme le vent qui gonfle la voile et pousse un peu plus loin le vaisseau qui est sur l'eau. Dieu est repéré comme souffle de liberté par l'apôtre Paul. C'est lui qui gonfle la voile de notre existence, mais cela signifie qu'il n'a pas la main sur le gouvernail. Pas plus que Dieu n'aurait été le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, ou chef des forces françaises libres, Dieu n'a pas la main mise sur nous. Dieu, c'est cet esprit qui souffle, qui nous permet d'avancer, d'aller au-delà, de dépasser les tropiques et les équateurs, mais Dieu n'a pas la main mise sur nous. Nous pouvons même dire plus. Le souffle de liberté est tel que Dieu va jusqu'à nous libérer à l'égard de Dieu lui-même. Parce que ce dont Dieu a besoin plus que tout, c'est de nous, chacun d'entre nous, en tant qu'être spirituellement libre à l'égard de tout. Amen.